Un libéralisme, disons, qui se transformerait automatiquement en responsabilisation. Ou le devenir naturel d'un libéralisme politique se transformerait aujourd'hui, disons, en responsabilisation. Autre binôme, c'est celui de pluralisme. Cette idée de pluralisme qui est revenue et donc une difficulté de la critique à traiter le pluralisme, puisque ce qu'on a vu quand même assez régulièrement dans cette journée, c'est l'idée, enfin sous-jacente, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, que toute critique radicale, pour se légitimer, a besoin d'évacuer le pluralisme. Et il me semble que c'est une difficulté que la critique a surmontée justement par rapport aux spécificités du développement de la vie durable. Autre binôme, celui de la scénarisation dont on a parlé cet après-midi, donc scénarisation de l'évolution de la planète, etc., et systémisme. Est-ce qu'il y aurait finalement une congruence entre un systémisme qui serait assez caractéristique du développement et de la vie durable, dont tout serait lié et inversement, et une scénarisation de ce développement durable qui conduirait à devenir une histoire unique, indépassable, qu'on ne puisse pas remettre en cause. Donc, est-ce que le systémisme, qui est le support de cette scénarisation des tenants du développement et de la vie durable, est-ce que cette scénarisation nous empêche de penser d'autres devenirs, d'autres histoires? Ce qui est apparu aussi cet après-midi, c'est le rapport entre réflexivité et mise à l'épreuve. Est-ce que réflexivité est équivalent à mise à l'épreuve? Quelle est la différence entre une démarche réflexive, qui est assez caractéristique du développement et de la vie durable, et ce qu'on appelle mise à l'épreuve, donc peut-être liée à d'autres acteurs, liée à d'autres pratiques, voilà. Autre binôme, c'est celui de temporalité, qui est revenu cet après-midi, et de machiavélisme, hein, avec l'idée qu'un but louable peut faire mettre en œuvre, par les institutions ou d'autres, des dispositifs qui sont peut-être critiquables, mais qui, pour le fond, sont légitimes parce que le but est louable. Donc il y a cette idée de temporalité longue qui serait dans le ferment de peut-être de dispositifs moins démocratiques, plus pédagogiques, comme on a dit à un moment donné dans une présentation de Rick Potter. Un autre binôme qui est venu là directement dans une présentation donc, à Barcelone, c'est cette tension entre radicalité et communalité. Hein, l'idée que finalement ce rapport entre commun, entre bien commun, mais aussi entre communauté et radicalité, dans quelle mesure cette relation-là entre radicalité et communalité est évidente et dans quelle mesure elle suscite, elle fabrique des prises de la critique sur le développement et la vie durable. Et dernier binôme que j'ai à vous proposer, c'est celui de controverse et de reprise de la critique. Alors l'idée, c'est que simplement, finalement, toute controverse est certainement louable, et dans quelle mesure le fait que cette controverse nourrit une reprise de la critique par les institutions, donc fabrique et génère et stimule des processus de domination, ou en tout cas de gouvernement, dans quelle mesure donc ces controverses louables favorisent la reprise de la critique par les institutions et donc renforcent à terme cette domination de cette doxa du développement et de la vie durable. Voilà, j'espère que ça va susciter des réflexions de part et d'autre et ensuite, évidemment, dans la salle.
Merci beaucoup. La question qui va beaucoup frapper, ou plutôt retenir mon attention, c'est que on doit dépasser le point de vue de l'expert. C'est-à-dire le sociologue, il arrive avec un point de vue bien donné qu'il veut imposer, notamment à travers le modèle de développement durable. Moi, je pense que le modèle de la démocratie participative, c'est-à-dire donner, écouter le citoyen, tenir compte des modèles locaux. Moi, je pense c'est une opportunité maintenant qui donne aussi l'occasion au sociologue d'apprendre les nouveaux schémas, les nouveaux modèles et de se dépasser par rapport à ces modèles dominants. La deuxième chose, étant tunisien, toujours lorsque j'écoute les interventions qui sont très intéressantes, Comment faire profiter comment faire profiter la révolution tunisienne de ses acquis? C'est-à-dire il y a des chercheurs qui font qui s'activent, qui essaient de proposer comment faire profiter la révolution tunisienne. Et moi je pense que la révolution tunisienne actuellement elle est à l'intersection de plusieurs enjeux. C'est-à-dire il y a les enjeux des forces impérialistes qui veulent toujours dominer, et il y a aussi peut-être aussi des modèles traditionnalistes aussi, mais surtout, par rapport à la question de l'environnement, ce qui fait peur, c'est en Tunisie, on vit dans une situation de contrainte, c'est-à-dire de contrainte par rapport aux enjeux que j'ai évoqués, et qu'on a bien peur de produire le schéma de croissance classique, c'est-à-dire de peur du chômage, de la pauvreté, donc on essaie de faire tout à la hâte. Donc je pense que les critiques menées ici et un peu partout, ça peut aider les chercheurs et les hommes politiques, notamment en Tunisie, pour en tenir compte de ces propositions. Et merci.
Bon, je ne sais pas trop en fait, parce que bon, tu disais faire discuter les deux salles, mais bon, moi je me garderais bien de faire une synthèse qui ne soit autre que la mienne en fait. Hein. Donc c'est bien en mon nom que je parle. Par rapport au binôme que tu mets en avant, peut-être la question peut-être du. Je ne sais pas laquelle m'inspire le plus, enfin, il y a tellement de choses que on ne sait pas trop par quel bout commencer, c'est un peu mon problème là. Si on parle de l'état de, on va dire, la question radicalité, est-ce que critique radicale a tendance à évacuer le pluralisme? Elle a deux faces cette question-là. D'une part, elle peut évacuer le pluralisme avec raison si derrière il y a effectivement une cause commune. S'il y a une cause commune, elle n'évacue pas le pluralisme, elle révèle l'unité plutôt. Si par contre c'est une critique qui est isolée, on peut dire quand on dit critique, ça peut aller dans les deux sens. Par exemple, la critique radicale de l'État-providence par le néolibéralisme, j'ai tendance à penser qu'effectivement elle évacue le pluralisme au profit d'une minorité. Laquelle minorité s'arroge le droit de mettre la main sur beaucoup de choses sans consulter personne et en général, contre beaucoup de gens. Donc oui, mais ça marche un peu dans les deux sens, et aujourd'hui, la question qui se pose sur la vie durable, sur le développement durable, on a plusieurs objets aussi qui ne sont pas forcément faciles à articuler les uns aux autres, c'est peut-être d'arriver à faire des... Parce qu'on a vu beaucoup, nous, dans notre axe, on a vu beaucoup de... justement, des difficultés à concilier l'aspect environnemental. Alors, je ne parle même pas de la différence d'échelle entre les problèmes environnementaux très locaux, de pollution locale, et les problèmes globaux de dioxyde de carbone, et ainsi de suite, mais articuler la dimension environnementale avec la dimension économique, avec la dimension sociale. Parce que d'un point de vue méthodologique, se dire qu'il est à peu près, il est très difficile d'articuler les trois, contrairement à ce qu'on raconte le développement durable, déjà, c'est déjà un progrès, et qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'arriver à trouver des équivalences, des formules d'équivalence entre des critiques qui se situent chacune dans l'une des trois dimensions. Comment arriver à trouver des formules, et cette fois dans le sens un peu positif, qui rassemblent, pour arriver à engendrer une action collective qui ne dépossède pas les gens, parce que bien entendu, dès qu'on parle d'action collective, on peut se dire aussi, oui, mais c'est un type isolé qui a une idée tout seul et puis qui dit que c'est collectif. Donc toujours cette philosophie du soupçon dont je parlais ce matin. Mais pour l'action, il est quand même nécessaire d'arriver à créer du commun, et du commun donne forcément un peu le pluralisme. Nécessairement, le public, le commun est fondé sur des formules d'équivalence qui, par définition, rendent équivalente et donc donne le pluralisme. Voilà, j'avoue que j'ai un peu du mal avec avec toutes les, tout ce que tu nous proposes là. Bon, on va continuer parce que du coup on est parti sur une logique où chacun prend le micro et, et rebondit au pied levé sur la proposition de Jérôme. Comme on est, moi je vais être assez bref, d'autant que c'est un colloque durable et qu'on ne doit pas compromettre les discutants du futur, donc je ne suis qu'un discutant de demain. Donc évidemment, je vais parvenir sur l'axe que je n'ai pas suivi, par contre je pourrais dire demain justement celui que j'ai suivi. Plus sérieusement, je voudrais peut-être ajouter un binôme, alors du coup, par rapport à la liste proposée par Jérôme, et qui donnera un petit peu ma idée que j'avais en tête dans le contenu possible du colloque. Et celui-ci, ce serait l'analytique et le prescriptif. Et qui renverrait certainement à l'idée que, au moins au départ, j'allais beaucoup mettre des recherches et des apports quant aux sciences sociales, qui étaient très nettement du côté du prescriptif ou bien de la bonne pratique. Moi, je suis pas mal venu à ça en analysant et en interrogeant à quel point tout à coup ce vocable de la bonne pratique s'était répandu, et pas seulement dans le monde. Dans les mondes professionnels de l'aménagement et de l'urbanisme, mais aussi en direction des chercheurs à qui on demandait alors d'identifier donc les bonnes pratiques. Il me semble que notre travail n'est pas tout à fait celui-ci, ou en tout cas s'il est celui-ci pour un certain nombre d'entre nous, il reste une part importante que j'ai l'impression que je vois beaucoup présente aujourd'hui, et c'est plutôt intéressant, je trouve, par rapport à ça. Donc, l'analytique et le prescriptif, et l'analytique, il est d'emblée, à mon avis, chargé d'une fausse critique dans le sens où il peut rendre perplexe, et à mon avis rendre perplexe c'est déjà dérouter l'attente ou les attendus quant aux bonnes pratiques par exemple, enfin, c'est une suggestion, hein, je livre en peinture ici. Et petite anecdote que je relis à ça, il y a quelques temps, justement dans le champ de l'aménagement et l'urbanisme, où je travaille pas mal, on pouvait commencer à avoir des collègues qui disaient qu'ils formaient au développement durable. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient enseignants-chercheurs en aménagement ou en aménagement urbanisme, et puis ils avaient rajouté, comme on le voit de plus en plus, en aménagement durable. Et puis quelqu'un avait dit, mais c'est quand même peut-être un peu problématique, qu'est-ce qu'on aurait pensé il y a 30 ans si l'un de nous était formé au socialisme réel, ou bien d'emblée. Alors d'emblée, évidemment, ça posait la question de la part doctrinale, idéologique, dans le développement durable, et je crois que c'était assez heureux, parce que ça a permis effectivement que se lèvent un petit peu des éléments, pour le coup, de critique par rapport à ce qui semblait devenir consensuel, à savoir de nouveaux marchés de formation aussi, et qu'est-ce qu'on peut livrer dans ce nouveau marché de la formation. Voilà, donc ça, je voulais amener ça, et puis peut-être un peu en rebond à ce que tu as énoncé, pluralisme et critique, ou cette question de la place de la critique radicale. Moi, je repensais à ce rapport plus dialogique peut-être entre critique radicale et puis ce qui peut relever de l'utopie concrète par exemple, ou ce que Lefebvre appelait la transduction de son côté, et il me semble que notamment dans cet atelier ici, quand il y avait question de Barcelone ce matin, on était pas mal là-dedans, et effectivement bien loin des bonnes pratiques, hein, mais plutôt du learning by doing, ou bien de l'expérimentation concrète et maintenant, et qui me renvoie, moi, à une lecture que j'ai faite récemment et qui n'est pas étrangère, à mon avis, à des enjeux qu'on aborde là, et qui renvoie aux travaux de Sénède assez récemment sur l'artisanat et ce qui est le bouquin traduit en français, Ce que c'est la main. Je crois que moi, je trouve une mine dans Ce que c'est la main, du coup, aussi bien par des notions comme cette ambivalence, par exemple, ou d'autres éléments que j'ai trouvé très fructueux. Et qui pourrait rejoindre, à mon avis, aussi l'ensemble des notions que tu as énoncées, Jérôme, même si je n'ai pas réussi à le mettre en binôme là, pour l'instant, mais ça viendra peut-être d'ici demain.
Pas forcément tout de suite revenir sur les binômes, si tu m'excuses. Mais.
C'est non, pas fixé, en fait.
Tenter deux, trois éléments de synthèse, en tout cas de discussions qu'on a eues à cette réunion de notre axe, avec effectivement, en les focalisant ou en les recentrant sur la question de la critique, et on a essayé de se questionner, ou de questionner chacune des interventions autour de ce que pouvaient être les appuis, les ressorts et les prises de la critique du développement durable. pourquoi finalement Crossan, qu'est-ce qui indigne, appuie à partir de quelle normativité prise, comment on administre la cause de la critique, comment on met à l'épreuve le développement durable. Avec du coup aussi cette question que le développement durable, comme ça a été dit par les Dilègues, on doit bien séparer en fait ce qui serait un horizon normatif, grammaire ou idéologie, enfin, le terme est encore dépendra des ancrages théoriques, mais de la durabilité, qui était à la base d'ailleurs une critique, hein, puisqu'il y a quand même ce rapport historique des critiques par la durabilité à la société capitaliste, à la société de consommation, donc une critique historiquement située dans les années 60-70 en grande partie. Et du coup, une critique qu'on fait à un concept à l'heure actuelle, développement durable, qui est appuyé sur cette critique, mais qui entre-temps, on a fait quelque chose d'autre. En tout cas, l'a transformé, en fait une gouvernementalité. Parce que notre axe était sur la gouvernementalité, gouvernementalisation des conduites. Donc finalement, qu'est-ce que le développement durable, en quoi il est critiquable comme action publique d'une certaine manière. Et du coup, il y a eu, on a vu deux grandes modalités de la critique émerger dans les interventions. Alors il y en a une qui n'a pas, qui a une troisième qui n'est pas, pas apparue. La troisième, ce serait une critique qui serait peut-être ce que nommerait Luc Boltanski une métacritique, mais la critique, il dirait, voilà, de toute façon, le développement durable, ça ne veut rien dire. De toute façon, le développement, c'est quelque chose de profondément, la notion de développement est profondément critiquable. Alors peut-être chez les squatteurs, il y avait ça en arrière-fond, mais ce n'était pas le centre de l'intervention. Donc quelque chose, ou alors une critique qui dirait de toute façon, la durabilité, c'est des conneries parce que finalement, il n'y a pas de menace aux écosystèmes, il n'y a pas de crise climatique. Donc cette critique-là, elle n'est pas apparue parce que personne n'en a fait la sociologie aujourd'hui. Par contre, on a vu deux autres critiques émerger. Une critique un peu, qu'on peut nommer un peu externe, où finalement, dans une tradition marxiste, où le développement durable est critiqué parce qu'il est instrument d'une exploitation, d'une domination, d'une hygiénisation des conduites. Donc finalement, on voit que quelque part, on agite des développement durable, mais pour faire autre chose, pour simplement c'est une ruse du capitalisme, en quelque sorte. Toujours un peu dans cette optique-là où le développement durable fait violence. Alors là, c'est pas par rapport à la domination, mais c'est aussi aux formes d'exclusion de mode de vie. On a vu aussi les squatteurs lutter contre des politiques de développement durable pour affirmer d'autres compositions du commun, affirmer d'autres qui ne sont pas éloignés de ce qui était à la base de la durabilité. Et là, on vient à la deuxième modalité de la critique, qui a peut-être été la plus présente aujourd'hui et qui rejoint, je pense, une partie de ce qui a été dit auparavant dans la table ronde, une critique plus interne, où d'une certaine manière, on pourrait le dire comme ça, le développement durable ne réalise pas les promesses de la durabilité. Donc il y a quelque chose qui s'est perdu dans sa traduction, dans sa mise en œuvre. Et là, c'est... on voit quelque part le développement durable alors qu'il promet de la concertation, alors qu'il promet de la participation, alors qu'il promet la prise au sérieux du social, se traduit, on verra, ça prend cette forme-là, se traduit dans des formes de nouvelles expertises, de batteries d'indicateurs, de processus de certification qui font perdre ce qui pouvait être la, la, le cœur de la durabilité. Cœur de la durabilité qui peut être décliné quand même de manière assez différente. Donc, dans cette critique interne, et je terminerai là-dessus, d'une certaine manière, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'elle elle rattache le développement durable à cet enjeu de la durabilité, en particulier dans ce qui était, comment il était énoncé dans, le, dans les années 60-70. Et il vient pousser, il vient toucher à la question du rapport à ce qui nous environne. Il vient toucher à ce qui, au rapport au, au monde vécu, hein, ça a été exprimé comme ça, hein, ce qui est le monde vécu, on fait apparaître Habermas, mais aussi Sénèque, Lefebvre. Et du coup, il y aura quelque chose qui va se perdre dans les techniques contemporaines de la gouvernementalité. Et du coup, quelque chose qui serait un rapport au monde qui va être écrasé contre lequel on fait violence. Et une dernière difficulté, du coup, émerge, c'est que dans ce passage à l'expertise du développement durable, hein, là où la durabilité peut-être avait voulu s'y maîtriser pour faire un expert, avait voulu remettre en avant une forme plus horizontale, ben, ce passage à l'expertise dessine quelque chose d'assez complexe, parce que c'est pas qu'on a du coup de la standardisation ou des actions publiques non réflexive et méchante, mais tout d'un coup on a de la certification, on a des processus dynamiques, on a des élites inquiètes qui ont elles-mêmes intégré la critique de la durabilité. Donc c'est ce que je disais au tout début, c'est que la développement durable est lui-même issue d'une critique. Et donc du coup la critique au développement durable est relativement démunie parce qu'elle a la peine à identifier à trouver les bonnes prises, à finalement pointer du doigt les mécanismes, parce que ça se traduit par énormément de processus différents, il y a toute une complexité qui a été mise en évidence dans une série d'interventions. Voilà.
Ouais. C'est pas facile ton exercice là. Parce que je regardais tes binômes, enfin ce que tu appelles les binômes. Ils sont les... Évidemment, on a envie de remplir de médiation chaque couple que tu formes là, parce qu'on passe pas facilement comme ça de la scénarisation au systémisme, ou de la réflexivité à la mise à l'épreuve. Enfin, c'est assez compliqué. Moi, évidemment, j'ai un défaut qui visiblement fait l'objet d'une attaque dans le dernier livre de Boltanski que j'ai pas lu intégralement. Qui est que j'ai du mal à penser sans objet, ce qui est quand même une des caractéristiques du pragmatisme, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on parle OGM, quand on parle nucléaire, climat, H5N1, je suis là et je connais les dossiers, et je peux commencer à voir s'il y a une opérationnalité à certains types de catégories, et re-questionner les modèles, etc. Donc là, effectivement, tel que tu le proposes, on part dans des directions extrêmement délicates, parce que tout pose problème. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est une scénarisation, qu'est-ce que c'est que la radicalité. Enfin, je veux dire, finalement, dans une controverse entre gens policés à l'intérieur d'une commission d'expertise, j'en ai observé quelques-unes, il y a des positions radicales qui consistent à dire le bisphénol colle des cancers, et d'ailleurs l'augmentation des cancers du sein et de la prostate, c'est clair, c'est le résultat de 40 ans de présence de ce perturbateur endocrinien dans les emballages alimentaires, les biberons, etc., etc. Et donc, pour certains, c'est de la radicalité. Ouais, à chaque fois, évidemment, les recontextualiser, ça change complètement le sens qu'on va pouvoir donner à tes oppositions. Pareil pour la controverse. Il y a des controverses qui produisent des objets, qui les posent, qui les mettent en circulation dans l'espace public. Il y en a qui, au contraire, les stérilisent ou les rendent politiquement pas très corrects. Enfin, je veux dire, difficiles à transporter. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, pour prendre ce dernier binôme que tu prends, la reprise de la critique, ce qui serait intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui n'est pas repris, tout de même, parce que tout n'est pas repris. Donc il y a bien une sélection qui se fait, et cette sélection, elle suppose quand même de remettre en processus long la liste des événements, des épreuves, des interventions, des installations d'acteurs dans l'espace public qui sont capables, à un moment donné, d'imposer, ou en tout cas de faire accepter, de rendre acceptable et praticable des arguments, des idées, des mots d'ordre, etc. Moi, je vais plutôt retraverser tout ça de manière transversale. Ce que j'ai entendu ce matin et cet après-midi dans les différents exposés, les 7 interventions et plus la discussion, c'est qu'il y a 3 grandes manières d'attaquer cette question de développement durable, qui en fait, et je me rends compte, je ne l'ai pas relu récemment, mais recoupe que partiellement ce qu'a fait Dominique Pestre dans un article que vous avez tous lu, hein, puisque vous êtes là, qui s'appelle « Développement durable, anatomie d'une notion », qui a été publié dans le numéro, je crois que c'est le premier numéro de Nature, Science, Société de 2011. Et dans lequel Dominique Pestre essaye de voir un peu qu'est-ce qui pose problème avec cette notion et aussi le type d'attaque. Donc il fait une typologie des critiques. Et évidemment, c'est assez intéressant de le reprendre dans le cadre de nos discussions. Moi, les 3 points que je vois, c'est d'une part, et c'était un peu les premiers exposés de la matinée finalement, sur un mot d'ordre, une injonction. Et évidemment, le type de critique que va susciter une injonction, c'est évidemment une résistance ou retraduction de l'injonction pour la dévier, la faire bifurquer. Par exemple, par rapport à l'idée de pédagogie, c'était particulièrement net. Et la description sociologique, évidemment, va généralement ici, et ça c'est très foucaultien d'une certaine manière, regarder le type de contre-discours, de contre-pouvoir, de résistance et de déplacement que tout système de pouvoir hégémonique génère dans son expression même. Ça, chez Foucault, c'est particulièrement net, puisque Foucault, c'est aussi et essentiellement un appui à la critique radicale. Je vous rappelle que, d'ailleurs, on lui doit énormément de choses, y compris les gender studies, si vous voulez. C'est-à-dire, en fait, la possibilité de faire monter dans l'espace public des minorités, de dénoncer des systèmes de coercition, de surveillance, etc. etc. Je pense d'ailleurs au bouquin de Robert Castel qui a été réédité, La gestion des risques, qui est justement un croisement entre Bourdieu et Foucault assez précurseur, parce qu'à l'époque ça se faisait pas trop, hein, c'était pas très légitime. Donc il y a première chose, c'est le saisir comme un mot d'ordre, une injonction qui est portée par un certain nombre d'acteurs avec une autorité soit politique, soit scientifique, soit un mélange des deux, ce qui est souvent le cas des groupes d'experts. Et le GIEC, comme vous le savez, est un dispositif très, très hybride, très complexe. Et il y a un très beau livre collectif dirigé par Raphaël de Minagori sur justement l'expertise du GIEC et toutes les tensions que ça génère. La deuxième façon, c'est plus proche de l'expérience de Barcelone et ce qu'on a vu et ce qu'on voit sur les terrains, c'est-à-dire des tensions entre des formes de vie. Et là, effectivement, les acteurs qui arrivent parés de ces notions, de ces dispositifs, apparaissent au fond comme des colonisateurs de mondes vécus, de mondes pratiqués, auxquels d'autres acteurs vont opposer des façons de prendre, des façons de faire. Alors là, c'est du Decerto quasiment qui se joue. On va donc avoir des systèmes de prise opposés qui vont poser le problème de leur articulation. Et le troisième, c'est plus les exposés de cet après-midi dans cet axe, qui est justement des réseaux d'acteurs portant des projets, en l'occurrence des projets d'urbanisation par exemple, ou des projets architecturaux, ou des projets scientifiques ou technologiques, comme le cas des nanotechnologies qui a été pris, ont incorporé dans leur dispositif des garde-fous, des guides de bonne conduite, effectivement, de bonnes pratiques, des standards d'évaluation, des indicateurs, etc. Et évidemment, là, la critique, elle va porter sur la pertinence des indicateurs. La revue machin n'est pas classée c'est les classements. Voilà, par exemple, en sciences sociales, on a bien vu avec l'AVRS, par exemple, mais pas seulement en France, hein, il y a eu pas mal de débats sur cette histoire d'évaluation par la publication et le classement des revues. Donc, typiquement, vous avez critique de l'injustice d'un dispositif ou de sa non-pertinence ou son irréalisme. Et donc, les 3 formes donne en fait des programmes d'entrée sur le thème très très différents, me semble. Et si on veut arriver à créer des fils de discussion un peu productifs et structurés, on a dit il faut clarifier un peu le point d'entrée et l'objet de l'attaque, parce que finalement le discours sociologique ou la méta-réflexion auquel nous invite ce colloque va changer radicalement selon qu'elle a pour mission d'appuyer une critique sociale et politique générale d'un nouveau système axiologique qui impulse au fond des représentations et des normes, si elle a pour fonction de faire exister ou de faire advenir dans le tableau des expériences, avec toujours le risque que les expériences soient évidemment récupérées, comme tu veux, enfin reprises. Mais en tout cas, bon, on a vu Almagar qui a surgi ce matin comme prototype, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, faire advenir à l'existence des acteurs en respectant finalement leur façon de représenter leurs propres actions, ce qui a quand même été fait depuis très longtemps par les nouvelles sociologies. Maintenant, on a 20 ou 25 ans de travaux, et c'est fait par plein de courants, pas simplement en France. L'interactionnisme, d'une certaine manière, depuis l'école de Chicago, ne fait que ça, c'est-à-dire essayer de partir de l'expérience des acteurs dans leur monde vécu, et sans leur plaquer des systèmes de codage ou de mesures externes. Et le troisième, qui est plus de comprendre comment la régulation se fabrique. Par exemple, les juristes, sur les nanotechnologies, pour prendre ce sujet-là, travaillent beaucoup sur la notion d'internormativité, parce qu'ils se rendent bien compte qu'un sujet et des pratiques émergentes comme ça ne vont évidemment déborder en permanence les cadres juridiques existants et vont poser un problème de pluralisme juridique énorme. Donc du coup, la question, c'est comment les acteurs assemblent dans leur propre dispositif des systèmes de normes et de contraintes extrêmement hétérogènes. Et même d'ailleurs la Commission européenne, quand on regarde comment sont fabriquées les directives ou les ensembles de normes et de règlements qui roulent autour de ces questions-là, en fait, fait de la composition entre de l'autorégulation, par exemple, de la contrainte générale fondatrice constitutionnelle de l'espace européen, par exemple avec des contraintes de marché, de transparence, d'information, etc., et des droits qui peuvent être plus ou moins avancés, qui peuvent être fondamentaux. En France, on a quand même la Charte de l'environnement, qui est quand même un truc intéressant, si on veut attaquer ça, qui est normalement une contrainte forte que les acteurs doivent mettre dans leur camp. Donc on voit bien que selon l'angle d'attaque, on n'a pas la même définition de la critique, on n'a pas les mêmes enjeux de description et on n'a pas le même partage, alors je suis d'accord, entre analytique et prescriptif, du coup, ça redéfinit le programme. Et en plus, selon ensuite les objets qu'on va se donner, comme alors la ville est évidemment ici l'objet principal, mais la ville, ça couvre tellement de choses que finalement, si on part sur les quartiers sensibles, on n'a pas la même chose sur les aménagements, ça va se croiser bien sûr, ou sur les pollutions, on travaille beaucoup sur la pollution de l'air par exemple, et la question des contestations des mesures de la qualité de l'air, sont quelque chose qui a du mal à prendre, parce qu'il y a une espèce finalement de banalisation hein, de ces questions de pollution. On voit bien qu'on n'a pas du tout les mêmes. Donc il faudrait mettre en rapport le programme, au fond, d'entrée sur le concept ou sur la notion de développement durable, et le type d'objet qui va faire dans lequel on va pouvoir regarder les pratiques et les activités des acteurs. Sinon, si on fait ça, je pense qu'après, effectivement, on peut reparcourir tous ces binômes, tous ces points d'entrée que tu nous as donnés, et regarder comment ils fonctionnent. Si on prend le climat, il est évident qu'on voit tout de suite sur la scénarisation. Le systémisme, il est évident. Je veux dire, voilà, dans le climat, on a un système complexe qui s'auto... donc si on joue sur un paramètre, on modifie les caractéristiques de l'objet, et donc effectivement, selon les décisions qui sont prises, c'est peut-être pour ça qu'elles ne sont pas prises au niveau international, d'ailleurs, parce que du coup, on voit bien le problème des sommets qui se répètent et qui génèrent en fait des partages entre les acteurs sur une espèce de prophétie de malheur d'un côté, ou sur l'idée de bon, faisons comme si et passons à l'adaptation de l'autre, hein, qui est quand même deux stratégies assez opposées. On voit que selon les objets, on n'a pas du tout la même facilité, je veux dire, à donner du corps et de la chair à ce que tu nous as proposé. Voilà ma réaction.
Merci.